Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'été sort d'hypnose. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, L'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Décapotable,
conduit par une jeune fille, cheveux au vent, lunettes de soleil, sourire aux lèvres. Il fait beau, la route est en ligne droite, entre deux rangées de platanes. Tout à coup, débouche d'un croisement un camion qui fait face à elle. Elle n'a pas eu le temps de freiner et la voiture est passée sous le camion. Regarde à la fenêtre les voitures qui filent sur l'avenue de l'Opéra. Elle soupire et se dit que sa fille est insupportable, insouciante, que son père la gâte trop, quelle idée de lui avoir acheté pour ses 18 ans une Ferrari. Elle était contre. Elle a failli mourir en roulant trop vite. Elle n'a pas vu un camion qui lui barrait le passage. La voiture est passée sous le camion. Mon mari est fou. Elle s'en est bien sortie. Et une fois qu'on lui a enlevé le plâtre sur le corps, elle n'a pas voulu rester à la clinique. Pourtant, elle aurait été mieux qu'ici. Elle se retire de la fenêtre et soupire. Armande est grande, mince, blonde, cheveux longs, visage distingué avec des yeux bleus qui sont très grands et une bouche pulpeuse. Elle est habillée d'une simple robe à manches longues noires. La grande pièce où elle se trouve est un salon Louis XV. Rouge et or, avec deux grandes fenêtres donnant sur l'avenue de l'Opéra. En face des fenêtres se trouve une grande cheminée de marbre. Le sol, c'est du parquet Louis XV. Une charmante jeune fille, cheveux châtains, mi-longs, regard futé et boudeuse. Elle est sous des draps de satin rose, en chemise de nuit rouge, soutenue par des oreillers roses. Elle peut à peine bouger, car son corps lui fait mal. C'est Pascal. À côté du lit se trouve une table roulante avec plein de médicaments. Elle soupire et se demande ce qu'elle va faire de ses journées. Elle en a marre de rester allongée toute la journée en ayant des douleurs sur tout son corps. C'est tout juste si elle peut soulever le bras. On est obligé de lui donner à manger comme un petit enfant. Et puis, il a trop chaud. Sa mère a mis le chauffage à fond pour qu'elle n'ait pas froid, parce qu'elle ne peut bouger, et pourtant nous sommes en juin. Pascal est une jeune fille de 20 ans. Debout, elle est de taille moyenne, mince. En temps normal, elle a le regard futé, rigueur et un peu boudeur. Elle aime vivre et se moque gentiment des choses de la vie. C'est une jeune fille insouciante qui n'a qu'un seul souci, se faire plaisir. À part cela, elle ne peut pas et elle ne sait pas faire grand-chose. Ses études se font d'une façon assez superficielle dans une école privée pour filles bien comme elle. Elle est entrée étudier la littérature après son bac qu'elle a eu l'année dernière avec une mention assez bien. Dans son milieu, ce n'aurait pas été convenable qu'une jeune fille ait de bonnes notes. Il faut laisser cela aux filles qui en ont vraiment besoin pour qu'elles accèdent à une profession. Il y a une chose qui la triste, c'est qu'elle n'ait plus de voiture. Elle n'est pas sûre que son papa chéri veuille lui en acheter une autre. Sûrement que maman lui dira que cela suffisait et que c'était trop dangereux.
On a frappé à la porte.
Entrez.
Entre sa mère en compagnie d'un jeune homme en blouse blanche. Il est grand, mince, visage très doux, châtain, yeux marron foncé. Il doit avoir dans les 30 ans. Sa mère lui dit
« Ma chérie, je te présente ton kinésithérapeute. Bien, je vais vous laisser. »
Et elle les quitte. Le jeune homme lui dit « Bonjour mademoiselle, je m'appelle Sylvestre et je viendrai plusieurs fois par semaine vous faire des séances de kinéthérapie. » Pascal fait la grimace et lui dit « Je vous promets que ce ne sera pas douloureux. Bien, je vais aller chercher le chariot. »
Et il sort de la chambre.
Ça ne plaît pas du tout à Pascal d'avoir des séances de kinéthérapie. Elle a peur d'avoir mal. Et puis, cela va lui prendre du temps. Revient avec un lit roulant où-dessus se trouve un drap.
Je vais vous déposer sur le lit. Il la prend dans ses bras délicatement et la dépose sur le lit. Je vous ai fait mal?
Oui, un peu.
Je vous demande pardon. Il fallait que je vous porte.
Et il l'amène dans une pièce à côté. De la chambre.
La pièce a été transformée en salle de kinéthérapie. Il regarde la pièce, soupire et dit « Chez moi, c'est pas aussi bien. » Pousse le lit roulant devant une table et la dépose dessus. Je vais vous mettre sur le dos. C'est ce qu'il lui fait. Au début, les massages lui font mal de partout. Ensuite, ça lui fait du bien. Puis, il la remet dans son lit, dans sa chambre. Une fois déposée dans son lit, elle lui dit « J'ai mal de partout. » Il lui dit « Ça ira mieux dans quelque temps. Vous verrez, vous vous sentirez mieux. Il faut patienter un peu pour que ça aille mieux. Bien, je vais vous quitter maintenant et je reviendrai après-demain. Au revoir, mademoiselle. Si vous avez mal, prenez les médicaments contre la douleur. Au revoir, monsieur. » Elle a mal de partout. Dans la soirée, après son travail, son père, Henri, vient la voir. C'est un homme grand, mince, cheveux châtains épais, visage enjoué. Son père, après l'avoir embrassé, lui demande « Comment ça s'est passé avec le kinéthérapeute ?» Elle lui répond « C'est dur et ça fait mal. J'ai mal de partout. »«
Ma pauvre petite chérie. Mais c'est normal. Patiente et après ça ira mieux. »
Après-midi, entre dans sa chambre sans frapper. Un jeune homme grand, mince, les cheveux blonds et ébouriffés, court sur la tête, le visage osseux, les yeux bleus rigueur, habillé d'un costume marine, chemise rose avec une cravate marine. Il porte un immense nounours blanc dans ses bras. Elle lui crie « Loulou !»«
Eh oui, c'est moi. Comme je sais que tu aimes les nounours, j'en ai apporté un. »
Il le lui montre. Il veut le poser près d'elle sur le lit.
« Non, surtout pas !»
Il veut s'asseoir sur le lit.
Elle lui crie « Non, tu risquerais de me faire du mal. » J'ai mal de partout.
Il va s'asseoir sur une chaise. Qui est près du lit et lui dit.
Ma pauvre Pascal, quelle horreur cet accident. Les vacances arrivent. Et est-ce que tu pourras aller à Acapulco?
Non, hélas. Je vais rester tout l'été à Paris. Quel ennui! Toute seule?
Non, mes parents ont annulé leurs vacances pour rester avec moi.
Tu vas vite te rétablir.
Oui, mais je n'ai plus de voiture. Mon père ne veut plus m'en acheter une. Il dit que je conduis trop vite et mal. Et puis il est furieux parce que j'étais en tort. Alors c'est mes parents qui vont payer.
Il y en a pour des frais, même l'hôpital.
Oui, et même le kinéthérapeute qui vient tous les jours. Il me fait des massages et je fais des mouvements.
C'est dur et ça me fait mal.
Mais c'est un garçon charmant, très doux.
Ma pauvre chérie, je viendrai souvent te tenir compagnie.
Merci, mon chéri.
Pascal passe ses journées au lit, s'ennuie et souffre. En plus de la chaleur qui arrive, c'est très pénible de rester au lit lorsqu'il fait chaud. Le climatiseur que lui a mis son père dans sa chambre et sa salle de kinéthérapie ne suffit pas pour diminuer la température. Sa mère vient la voir pour lui apporter le petit déjeuner et manger avec elle. Elle lui parle des amis qu'elle voit, des magasins où elle va, du temps. Elle tient un magasin d'antiquité pour s'occuper rue Saint-Honoré. Une fois que sa mère est partie à ses occupations, une infirmière vient la laver. Elle la lave dans son lit en la tournant, etc. avec une crème et elle lui donne ses médicaments. Ensuite, jusqu'à 13h, elle reste seule. Puis, pour l'heure du repas qu'elle fait dans sa chambre et au lit, c'est la bonne qui l'aide à couper sa viande, etc. Parce qu'elle a mal de partout, tous les jours à 15h vient le kinéthérapeute. Malgré qui lui fait mal, elle est contente de le voir et de passer un moment avec lui. Il est très prévenant et gentil. Durant la séance, il se parle peu. Après une demi-heure, elle retourne au lit épuisée. À 20h, son père vient la voir et lui demande comment elle va. Elle lui répond : j'en ai assez de vivre au lit comme ça. Et puis j'ai mal. Son père lui dit :
c'est de ta faute si tu es dans cet état.
Et puis il faut patienter. Lorsque l'on fait des bêtises, on en paye les conséquences. Tu as la chance d'avoir des parents comme nous qui avons les moyens. Est-ce que tu crois que beaucoup de familles auraient pu te soigner comme nous le faisons ? Elle soupire et lui dit :
je ne sais pas, papa, et cela m'empêche de faire des choses, et puis ça m'empêche pas d'avoir mal, et que je m'ennuie.
Tu es une petite fille gâtée, et c'est pour cela que tu t'ennuies. Elle lui demande :
tu ne m'aimes plus ?
Il l'embrasse sur le front et lui dit :
bien sûr que si, mais il faut que tu apprennes à avoir de la patience.
Soirée, après le dîner, elle reçoit des appels téléphoniques de ses amis. Elles lui parlent toutes de leurs projets de vacances et de ce qu'elles font.
Cela a l'air triste.
Elle se sent affreusement malheureuse et démunie. Midi, le kinéthérapeute, en la massant, la trouve triste. Il lui demande si elle n'est pas bien. Est-ce que vous avez mal? Elle lui répond :
Non, mais je suis malheureuse.
Vous ? Malheureuse ?
Oui, tous mes amis partent en vacances, pour des tas de choses. Et moi, je me trouve démunie, sans rien, ici, à souffrir. Je suis la fille la plus malheureuse qui soit.
Il ne faut pas dire ça, mademoiselle. Il y a des tas de gens qui sont plus malheureux que vous et qui n'ont rien, qui ne peuvent même pas se soigner.
Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, des gens qui sont plus malheureux que moi? Est-ce que ça me rend plus heureuse? Les riches ont autant le droit d'être malheureux.
Oui, bien sûr qu'ils peuvent être malheureux, mais les pauvres, ce n'est pas pareil. Si vous saviez, elle hausse ses épaules, elle lui dit,
ça ne m'intéresse pas de le savoir. Non, pas du tout.
Elle se dit qu'elle est malheureuse et que personne ne peut la comprendre parce que l'on pense qu'elle n'a pas à être, à l'être, parce qu'elle a tout. Les jours passent et elle reçoit toujours des nouvelles de ses amis qui s'amusent, flirtent, préparent leurs vacances et que cela commence à l'irriter. Pour ennuyer une de ses amies, elle lui dit au téléphone
« Tu n'es qu'une égoïste qui ne pense qu'à toi. Même les autres aussi sont là. Et il y en a qui souffrent.
Et qui ?
Les pauvres.
Je ne savais pas que tu étais socialiste, ma chérie.
Tu t'y connais en pauvre ?
Demande son amie. Elle ne sait quoi répondre et finit par trouver ses amis superficiels et sans corps. Elle finit par se dire qu'elle est entourée de gens futiles. Un jour, elle demande au kiné :
Vous fréquentez les pauvres ?
Oui.
Pourquoi faire ?
Pour les aider ?
Comment faites-vous ?
Je suis petit frère des pauvres. C'est une association qui vont voir les pauvres chez eux pour savoir ce dont ils ont besoin. Elle le compare à ses amis et finit par le trouver formidable. Elle le regarde d'une autre façon. Elle remarque son côté calme, doux. Et puis, il fait des choses utiles et très belles. C'est un peu comme un prêtre, un Saint-Vincent de Paul. Et puis, elle le trouve beau garçon. Journée, elle attend avec impatience son arrivée. Elle aime se sentir soulevée par lui, qui la masse. Elle regarde ses doux yeux pleins de bonté. Elle pense à lui constamment. Lui ne fait pas attention à son comportement, qui a changé pour lui. Demande. Je ne me souviens plus de votre nom. Je m'appelle Sylvestre. Que faites-vous en ce moment? En dehors de mon travail, je continue à aller voir les vieux chez eux. Ce sont des gens qui sont seuls, des malades. Je les aide à faire ce qu'ils ont à faire et leur apporte un peu de chaleur humaine en leur parlant. Elle le trouve merveilleux, formidable. Lorsqu'on lui téléphone, il lui arrive de parler de lui et de dire que lui au moins fait quelque chose de bien et d'utile. Elle raconte ce qu'il fait. Les autres la prennent pour une folle. Ses amis viennent la voir. Elle les trouve superficielles et sans intérêt. Un jour, elle lui demande « Vous habitez seule ?»« Non, avec ma mère. »« Que faites-vous chez votre mère ?» Il lui répond « Je vis avec ma mère parce qu'elle est malade, paralysée, et je m'occupe d'elle pour ses soins et tout ce dont elle a besoin. Et les pauvres? Et elle est pauvre. Et sans moi, elle ne pourrait se soigner ni rien faire. Je m'occupe des pauvres et en plus de ma mère. Voilà mes occupations. Elle pense à lui malgré elle jour et nuit. Elle devient mélancolique et répond à peine aux questions que lui posent ses parents. Un soir, son père lui demande « Mais qu'est-ce que tu as? Tu sembles toute chose. » « Rien, papa, rien. » Père en parle à sa femme durant le repas qu'ils prennent dans la salle à manger.
« Je la trouve bizarre. »
Sa femme lui dit « Elle doit s'ennuyer. Elle doit être triste de ne pouvoir partir en vacances cette année. » Sylvestre de plus en plus formidable. Lorsqu'elle le voit, elle le lui dit. Il sourit et lui dit « Je ne vois pas pourquoi. Vous me voyez formidable. Je ne suis rien. » Elle lui répond « Si. Vous êtes quelqu'un. » Je n'existe pas. » Il lui dit, « Il ne faut pas dire ça, mademoiselle. Même les êtres les plus... » Le plus diminué existe. Un jour, lorsqu'il la prend dans ses bras pour la déposer sur son lit roulant, il l'embrasse sur la joue. Il est tellement surpris qu'il manque de la faire tomber. Elle le voit et lui dit, « Mon baiser vous fait un drôle d'effet. » Il ne lui dit rien. Il ne sait plus. Elle a une façon de le regarder que ça le gêne lorsqu'il l'amasse. Mais très vite, ils se mettent à avoir de fous rires. Mais quelque chose s'est passé entre eux. Elle n'a plus du tout envie de revoir ses amis, même le brave et gentil Loulou. Sa mère, pour la distraire, parle de sa garde-robe qu'elle aura à acheter vu la mode qui a changé. Cela ne l'intéresse pas et trouve sa mère frivole. Sa mère pense qu'elle est amoureuse et se demande de qui. Durant le repas avec son mari, elle lui en parle. Son mari ou ses épaules, et lui dit « Et pourquoi ne serait-elle pas amoureuse ?» Il lui demande
« Et de qui ?»
Elle lui répond « Je vais surveiller. Tiens, Loulou. » Son mari sourit et lui dit
« Loulou, c'est comme son frère. »
Sa femme ou ses épaules. Elle essaye de voir. Lorsque Loulou vient voir Pascal, elle essaye de le faire parler, mais rien. Elle lui parle dans son salon avant qu'il n'aille dans la chambre de Pascal.
Alors Loulou, c'est gentil de venir souvent rendre visite à notre petite Pascal.
Loulou lui dit,
c'est tout à fait normal, elle reste toute la journée enfermée dans sa chambre. Oui, mais un jeune homme comme toi doit avoir certainement des tas de choses à faire.
Il hausse ses épaules et lui dit,
pas tellement.
Elle lui demande,
vous n'avez pas une petite amie?
Non. Et puis, ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux vivre sans attache, comme ça.
Ce que j'aime, c'est surtout m'amuser et plaire aux gens. Je suis un peu comme un papillon qui butine de ci, de là.
Elle lui dit,
eh bien, allez voir notre petite Pascal.
Elle se dit que ce n'est peut-être pas de lui.
Pascal aimerait se confier, dire ce qu'elle ressent, mais le dire à une de ses amies, ce n'est pas possible. Non, elle serait jalouse.
Alors elle raconte tout à Loulou et lui dit. Loulou qui lui dit:
tu es complètement folle. Aimer son kiné. Ton père sera furieux. Et ta mère, n'en parlons pas.
Elle lui dit:
je m'en moque.
Il lui dit:
c'est parce que tu t'ennuies que tu es tombée amoureuse de lui. C'est normal. Tu le vois tous les jours.
Ce n'est pas ça. Je l'aime vraiment.
Il hausse ses épaules et lui dit:
j'espère qu'il ne le sait pas, parce qu'il te prendrait pour une folle.
Elle lui répond:
je suis sûr qu'il le sait, et cela ne le gêne pas du tout.
Il lui dit:
c'est normal. Tu te rends compte, la fille d'un homme aussi riche que ton père.
Elle lui dit:
il ne pense pas à ça. Il s'occupe des pauvres. Et ma fortune ne l'intéresse pas.
Ça, c'est toi qui le dis. Elle hausse ses épaules et lui dit:
surtout, ne dis rien à personne.
Il l'embrasse sur la joue et lui dit:
je te le promets. Et si un jour tu as besoin d'aide, je serai là.
Sa mère est au salon avec son mari. Elle lui dit:
malgré ce que m'a dit Loulou, je pense que c'est l'heureux élu de ma fille.
Elle a dû être tombée amoureuse de lui et lui ne le sait peut-être pas.
Son mari lui dit: tu es complètement folle.
Elle lui dit:
ce serait un très bon parti. Le fils Lafarge, tu te rends compte?
Pascal s'ennuie lorsque ses amis viennent la voir. Ce qu'elle dit ne l'intéresse pas. Elle pense aux conversations qu'elle a avec Sylvestre. Un jour, elle lui demande:
comment faut-il faire pour être heureux?
Il lui répond: il ne faut pas être égoïste et penser à Dieu. Il a dit qu'il fallait aimer les autres comme s'aimer soi-même. Elle lui dit:
vous, vous êtes heureux?
Non, vous êtes plus heureux, plus qu'heureux. Vous êtes merveilleux.
Oui, vous êtes merveilleux.
Elle se penche à son cou et l'embrasse sur la joue.
Sylvestre, en la quittant, se sent troublé par sa façon de se comporter. Il se demande s'il ne devrait pas arrêter avec elle, la quitter.
Il entre chez lui, boulevard Haussmann, un immeuble ancien. Au quatrième étage où se trouve son cabinet et où habite sa mère avec lui. Il va directement dans leur appartement sans passer par le cabinet car le palier a une porte pour le cabinet et l'autre pour l'appartement. C'est un 4 pièces défraîchi avec de vieux meubles sans style genre 1930. Il y a des napperons et des bibelots. Un peu de partout, avec des plantes vertes, ça donne un côté vieux et pauvre.
Entrez.
Il retrouve sa mère au salon
est en train de tricoter. Sa mère est une femme petite, toute maigre, les cheveux en chignon blanc. Elle porte une robe toute simple, noire. Après l'avoir embrassée, il s'assoit en face d'elle dans un fauteuil. Sa mère le voit songeur. Elle lui demande « Que se passe-t-il » et lui répond « Je crois qu'il serait plus sage, c'est que je n'aille plus voir la jeune fille. Tu sais, Pascal ?» Sa mère lui dit « Tu es fou, nous avons besoin d'argent et il paye bien. Et puis, tu m'as dit que les soins étaient bientôt finis. »
Il lui dit « Je vais réfléchir. » Il reste songeur et pense toute la journée au comportement de Pascal à son égard. Mais plus il y pense et plus il en sourit et la trouve délicieuse. Malgré lui, il a hâte de la voir. Mais lorsqu'il la voit, il se sent intimidé. Pascal est heureuse et ne pense pas qu'un jour il ne viendra plus la voir. Elle aimerait que ce soit toujours comme ça. Maintenant, elle peut se lever, marcher, faire sa toilette seule. Sylvestre voit que les soins sont bientôt finis. Il lui dit vous aurez bientôt plus besoin de moi. Elle le regarde surprise. Mais j'aurai toujours besoin de vous. Il lui dit, mais non, vous avez eu de la chance, tout est remis en place, vous êtes comme avant votre accident. Elle devient triste et lui dit, non, rien ne sera comme avant. Il lui demande « Pourquoi ?»« Parce que j'ai changé et mon corps, elle a les larmes aux yeux. » Il lui demande « Vous ne serez pas triste de ne plus me voir ?» Il ne sait quoi lui répondre. Une voix en lui-même lui dit que oui. Mais il ne sait pas pourquoi. Elle lui dit, « Vous voyez bien que je ne suis pas guérie. » Il ne comprend pas ce qu'il ressent. Alors, il se sauve. Il se sauve en courant. Il essaye de comprendre ce qu'il ressent en marchant dans les rues. Il se dit que je n'ai qu'une jeune fille riche, insouciante, et puis c'est sa patiente, rien de plus. Mais tout de même, elle est si belle, délicieuse. Non, non, il ne doit pas y penser. Elle n'est pas pour lui. Que ferais-je d'une fille riche et qui n'est qu'une fille riche comme toutes les filles riches, insouciante, capricieuse, égoïste? Non. Non. Elle n'est pas insouciante. Elle n'est pas égoïste. Elle est délicieuse, charmante. Oh mon Dieu, que faire? Il faut que je l'oublie. Elle a un visage si charmant, un sourire éclatant, un corps délicieux. Un corps délicieux ? Mon Dieu, Mais c'est vrai? Non, je dois l'oublier. Et puis, je vais la quitter bientôt, et elle m'oubliera. Cette pensée lui serre le corps. Ce n'est qu'une pensée? Oh non, alors, quoi? Il y pense constamment. Il passe une nuit terrible en ne sachant que faire. La pensée qu'il ne le verra plus lui brise le cœur. Au petit déjeuner qu'il prend avec sa mère, nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'été sort d'hypnose. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. L'été, L'apostrophe, E accent aigu, T-H-E accent aigu, pas été la saison. C'est pour cela que j'ai mis sort d'hypnose. Parce qu'à la radio, on ne peut pas voir la différence des deux noms. L'été était le fleuve de l'enfer dont les eaux avaient le pouvoir de donner l'oubli. Dans l'Antiquité, le sommeil était un peu la mort.